Bonjour, vous êtes bien sur Radio Dio, le 895. Bienvenue dans l'émission numéro 0. C'est une première ou la suite d'une série d'émissions. Et là, à partir d'aujourd'hui, on va avoir une nouvelle fréquence, l'émission numéro 0. Ça va être un jeudi sur deux, de 12h à 13h, sur Radio Dio. J'aimerais juste dire que cette émission elle est ouverte à tout le monde et que si vous avez envie de participer d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à publier sur le site du numéro 0 des infos, nous on les reprend pour l'émission. N'hésitez pas aussi à nous brancher si vous nous connaissez, à dire et à venir présenter vos trucs et tout ça. L'émission, on s'est dit qu'on avait surtout envie de parler de ce qui se passait sur Saint-Étienne et des luttes sur Saint-Étienne. Et voilà, c'est ouvert à tout le monde, on essaiera de tout ce qu'on entendra parler, de le faire parler au mieux, et voilà. Là, tout de suite, on va commencer par le programme, le sommaire de l'émission.
Voilà, aujourd'hui, de quoi allons-nous vous parler ? Alors tout d'abord, on va faire un retour sur la journée de convergence des luttes, enfin le week-end de convergence des luttes qui a été organisé par le numéro 0, les 27 et 28 octobre. Voilà, on vous présentera des extraits des discussions qu'il y a eu. Puis, on vous parlera de quelques manifestations qui vont se passer bientôt et de la manif qui a eu lieu mardi, donc le 7 octobre à Saint-Étienne. Voilà, et puis ensuite, on vous fera une petite présentation du Salon de l'Autre Livre qui arrive à grands pas à Saint-Étienne et puis du Grémos, le mystérieux Grémos, et de la journée d'études sur la grève des mineurs de 48 qui vont organiser le 22 octobre. Voilà, voilà.
Du coup, tout de suite, on commence par des petits enregistrements qui ont été pris par des copines le jour de la journée de convergence des luttes à l'initiative du numéro 0 à la Bourse du Travail le 26 septembre dernier. À cette occasion-là, il y avait une table ronde qui était organisée, avec autour de la table ronde des militants et membres de divers collectifs, notamment le collectif des faucheurs volontaires, RESF, des gens qui se bougent le cul sur le CHU à l'hôpital Nord, du collectif de soutien en Rom, collectif étudiant et le collectif contre la biométrie et pas mal d'autres trucs. La table ronde, elle a duré 2 heures. Ça a été l'occasion à tout le monde de présenter un petit peu leur lutte et ce dans quoi ils ramaient. Au bout d'un moment, on a tous un petit peu ramé. Et c'est vrai que 2 heures, c'était court. Ça a été l'occasion juste de s'apercevoir et de voir un peu ce que tout le monde faisait. Mais moi, il me reste un petit peu l'amertume qu'on n'ait pas plus vraiment discuté ensemble. Et j'espère que ça se refera. Tout de suite.
Eh ben, tout de suite, on va commencer par écouter ce que nous ont raconté les personnes du CRAETS. Donc le CRAETS, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est une association qui a été montée à l'IREIS à Firminy et peut-être dans d'autres écoles. Donc l'IREIS, c'est une école d'éducateurs et d'assistantes sociales qui, face à une loi qui fait partie de la loi de l'égalité des chances, qui dit en fait que les stages de plus de 3 mois doivent être rémunérés. Et ce qui fait que vu que la formation d'éducs et d'assistantes sociales est beaucoup basée sur des stages et que les employeurs ne peuvent pas ou ne veulent pas se permettre de rémunérer leurs stagiaires, et ben ça faisait que les étudiants et étudiantes ne trouvaient plus de stages ou avaient peur de ne plus en trouver, etc. Et donc se sont mobilisés là-dessus. Et voilà, ça a été la base d'une lutte qui existe encore. Donc, elles nous en ont parlé. Et voilà, je vais vous passer tout de suite cet extrait. Vous verrez que ça commence de manière assez abrupte. Mais elles racontent ce qu'elles ont fait et ce qu'elles font.
Le mouvement, du coup, est vraiment parti de ce problème de gratification qui stoppait toutes les formations médicaux et sociales parce que, on n'avait plus rien. Ça a été des manifestations, ça a été des courriers, beaucoup de contacts aux conseillers généraux, régionaux, députés, sénat, enfin tout ce qui était élu, on a essayé de bazarder dans tous les sens.
Des rencontres avec tous les présidents ou directeurs et conseillers généraux de la région Rhône-Alpes. Plus nous sommes allés se manifester à Paris. Lors des assises à la Sorbonne, on a occupé la Drasse aussi. pour obtenir une page blanche, pour expliquer parce qu'on était complètement dépourvus, personne ne voulait nous recevoir. Donc on a employé un petit peu les moyens.
Les CRS sont intervenus
très rapidement. Ils ne sont pas allés de main morte d'ailleurs. Mais bon, depuis, on est reçu environ une fois par mois à la DRAS pour essayer d'avancer sur toutes ces problématiques. Et ça devrait durer normalement jusqu'à décembre, en essayant d'intégrer dans cette table ronde également les emplois.
Ça faisait des pics, hein. Il y a eu des moments de, après l'occupation de la DRAS, où ça a fait bouger pas mal les gens, il y a eu un gros élan d'un coup, et puis on se rapprochait un peu de plus, Nous, le problème, c'est quand ça s'est mis en place, on n'était pas directement confronté par l'État. On l'était, mais pas trop, par les problèmes de mise en stage, parce que nos mises en stage étaient que pour septembre. C'est dur quand même de mobiliser, de faire connaître, et puis que les gens comprennent effectivement que c'était pas, qu'on n'était pas des gens qui réclamaient quelque chose, quoi. On nous imposait quelque chose et nous, on voulait simplement que ça nous permette de continuer ce qu'on a commencé. C'était pas, on ne demandait pas, donc c'était encore plus dur pour les gens de comprendre ça. On a eu des petits articles sympas, ben, quelques étudiants de quoi, tout le monde enfin plein de choses. C'était pas du tout les réalités. Il y a des étudiants qui n'ont rien chaque mois et qui sont vraiment dans la merde et que s'ils pouvaient avoir ces 400 euros par mois, ils seraient vraiment contents de les avoir, ça serait toujours ça de plus. Hein. Mais c'était mal connu, quoi, c'était déformé souvent les infos. On sait que les étudiants en psychologie se retrouvent dans le même problème que nous en septembre, que les orthophonistes étaient dans le même problème, et kinés aussi. Enfin, on n'a pas réussi, c'est pour ça que ça intéresse aujourd'hui, parce qu'on a été confrontés à ça, on n'a pas réussi à tous se mettre ensemble autour de ce même problème, et on se retrouve tous dans le même problème, décalé, et finalement, il n'y a pas quelque chose d'uniforme qui se met en place. Et nous, au niveau des étudiants de Firminy, on continue à se mobiliser sur ce qu'il y a besoin. On sait que la convention collective 66 est en gros danger aussi. On sait que dans le milieu du travail social, il y a énormément de soucis à se faire quand même. Donc on continue à... On aimerait bien vraiment que cette association CRAET, qui, par le biais de certains étudiants, redescend dans chaque école les infos, puisse devenir vraiment un endroit où on peut discuter de tout ça et où on peut déjà arriver à s'organiser dans ce milieu-là. Après, c'est les volontés, est-ce qu'on arrive, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on aimerait vraiment arriver à faire.
Voilà, donc c'était les étudiantes de l'association CRAET lors de la journée de convergence des luttes, le 26 septembre dernier, organisée par le numéro 0. On va vous passer un autre petit enregistrement, toujours pareil, avec ce son de cave bien typique à la Bourse du Travail. C'est un enregistrement de Alban qui présente le collectif photogéré des étudiants de Tréfilerie et qui parle un petit peu du coup de l'intérêt de la convergence des luttes et un peu de ce problème auquel on fait un peu tous face, qu'en gros il n'y a jamais de réelle mobilisation sans mouvement guillemets créé par les médias.
Je vais pinailler, mais c'était pas le 26 septembre, c'était le 27 octobre.
Et les deux ? Nous, c'est mis en place suite au CPE. Donc, il y a un petit collectif d'une quinzaine de personnes au départ. Après le mouvement dit anti-CPE, on a créé un petit journal et on a essayé de faire un lieu de réflexion et de rassemblement d'étudiants de différentes filières. Pour réfléchir pas que sur la faculté et sur le monde qui nous entourait surtout. Donc on a sorti un journal qui essaie de parler des luttes des sans-papiers, d'autres choses comme ça. Et on a fait surtout un infokiosque avec une soixantaine de brochures disponibles dans le hall de la fac pour que les étudiants qui passent puissent s'arrêter et puis prendre d'autres informations que ce qu'on peut leur balancer dans la gueule tous les jours. Le problème de notre collectif, c'est pas un problème intrinsèque au collectif, c'est le fait qu'on est dans une faculté et que pour mobiliser les étudiants, il faut qu'il y ait des grands mouvements, comme on dit, sinon ils ne se bougent pas. Donc nous, on essaie quand même d'être présents, de montrer qu'on peut faire des choses, que la fac, ça peut être un lieu de rencontre aussi. Le problème de la fac, simplement, c'est que c'est un lieu de passage pour beaucoup de gens, quoi, et là, ils ont quand même l'espérance de pouvoir avoir quelque chose derrière. Ils viennent dans l'idée que... ils ont trouvé un boulot et ils ne se posent pas spécialement de questions sur le monde qui les entoure et ça reste assez individualiste. Donc nous, on essaie de briser un petit peu cette démarche individualiste dans les facs, Donc on a fait ce journal-ci, et après le CPE, il y a eu ce mouvement d'anti-LRU l'année passée, et nous on a embrayé directement sur ce mouvement-là, en essayant du départ de dire que c'était pas nous, on ne se considérait pas en tant qu'étudiants à l'intérieur de ce mouvement. C'était de dire, on est des étudiants, certes, mais on est surtout des hommes et des femmes qui avons un monde qui nous entoure et qui a des soucis, que cette réforme de la loi pour l'autonomie des universités, comme le CPE, ça s'inscrivait dans une démarche globale du système capitaliste, libéral, etc. Et donc, on a essayé de faire comprendre du départ qu'on n'était pas simplement là pour étudier, qu'il y avait quand même un monde autour de nous. Donc, nous, on a embrayé sur ce mouvement anti-LRU. On a fait une réunion, une première assemblée générale à la fac. C'était pas une assemblée générale, parce qu'à la fac, ils ne marchent que par les assemblées générales, les étudiants. Et nous, on a essayé de faire simplement une réunion de débat pour parler de tout ça, de ce contexte global de casse des acquis sociaux, des démarches néolibérales, etc. Et on s'est rendu compte quand même qu'on était plus ou moins bien écoutés selon les moments, surtout que le président de la fac nous a fermé la fac, on a été à la rue pendant une semaine ou deux quasiment. Et nous, on était quand même dans cette démarche toujours d'être un collectif autonome, autogéré, sans étiquette syndicale ou politique, pour essayer de rassembler un maximum de gens pour montrer qu'on était totalement capable de réfléchir ce monde-là sans être dans un syndicat, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont réticents à tout ça. Donc le mouvement LRU, nous, il tombait en plus en plein pendant la grève des cheminots. Donc il y en a déjà qui nous ont reproché de vouloir bloquer la fac juste parce qu'il y avait le problème des cheminots. Nous, on leur a dit simplement non. Ce qui arrive aux cheminots, c'est ce qui arrive à plein d'autres gens, c'est dans une logique, c'est ce qui se passe à la fac. Donc on est là pour réfléchir à tout ça. Donc nous, on a été présents dans les AG des cheminots. On a essayé de leur expliquer que nous, déjà, on les soutenait. Et que, deuxièmement, leur réforme qui concernait leur retraite, par exemple, ça s'inscrivait dans cette démarche globale actuelle de casse des acquis sociaux, de libéralisation des entreprises, etc. Et on avait fait pour une des grandes manifestations, ça nous a bien marqué parce qu'on avait fait une banderole. Bon, elle peut être certainement caricaturale pour beaucoup de gens, mais en fait, pour nous, elle représentait beaucoup de choses. Et le jour où on a décidé de faire cette banderole-là, tout le monde était d'accord. Donc on a dit, on va la faire. C'était simplement contre les divisions, lutte des classes. On s'était mis en tête de cortège et bien sûr, on n'attendait pas autre chose de la part des journalistes, mais ils ont complètement oblitéré cette banderole-là, qui pour nous était quand même très symbolique. C'était de montrer que il y avait des étudiants, des chômeurs, des précaires, des sans-papiers, et que en fait, ça répondait à une certaine logique de lutte contre les pauvres, lutte contre les pauvres gens, quoi. Et les journalistes, bien sûr, ils n'en ont pas parlé du tout, ils ont juste simplement dit les étudiants sont mis en tête du cortège, et puis ils en avaient rien à foutre de ce qui se passait chez les cheminots ou chez les salariés, etc. Donc voilà, ils ont fait comme d'habitude. Oui, notre banderole, elle nous a fait plaisir, mais en même temps, les médias, ils ont joué leur rôle de cas, c'est chacun dans son coin, chacun dans sa petite lutte interne. Et vu que là, aujourd'hui, c'est une journée de convergence, nous, on est, depuis le début, en fait, depuis le CPE, nous, à la fac, pour le CPE, on s'inscrivait vraiment dans une démarche de convergence, quoi. On n'était pas simplement dans un délire purement étudiant. On sait très bien que demain, tout le monde va aller bosser, ou on ne va pas bosser, justement. Donc, on était dans une démarche de convergence des luttes depuis le CPE, et la logique du collectif, c'est ça, c'est d'être présent sur la fac pour montrer qu'on peut... Nous on estime qu'il faut qu'on bouge à côté de ça parce que la vie elle touche tout le monde et demain ce qui arrive chez les salariés, ce qui arrive pour les chômeurs, les précaires, les sans-papiers, ça peut très bien toucher des étudiants. Donc voilà, notre démarche a été ça depuis le début. Donc actuellement on est un peu bloqué, comme je disais, c'est que les étudiants ils marchent que par mouvement. Tant que les journalistes ils n'ont pas créé un mouvement étudiant, les étudiants ils font rien. Donc pour nous c'est dur de bouger comme on veut à la fac, donc on essaie d'être présent quand même. Mais c'est dur de mobiliser les gens s'il n'y a pas de mouvement derrière qui fait que les gens puissent se mobiliser. Donc on essaie d'être présent. On avait fait aussi, dans ce démarche-là, on a essayé de faire... L'autre fois, on a organisé une petite une conférence-débat avec les travailleurs de l'hôpital pour qu'ils nous expliquent ce qui se passait à l'hôpital. Et pour nous, c'était important. Et puis on s'est dit, ça a peut-être aussi un moyen de toucher les étudiants qui sont en médecine ou les écoles d'infirmières et tout. Et puis bien sûr, il n'y avait pas non plus, il n'y avait presque pas des étudiants de médecine et tout. Mais on était quand même contents de réaliser comme ça quelque chose pour montrer que, d'une part, les étudiants pouvaient très bien, on était ouverts sur ce qui se passait à côté, et qu'en même temps, on comprenait que les problèmes qu'il y a actuellement, ils sont tellement globaux et tellement communs à tout le monde qu'on peut aller que dans un sens et vers la convergence des luttes. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est qu'on est un petit collectif. Pour l'instant, on a du mal à toucher du monde. C'est le problème de la fac. Mais ce qui a été positif, c'est que cette conférence-là, avec les travailleurs de l'hôpital, elle a été diffusée sur Radio Dio, et apparemment, il y a quelques personnes qui ont écouté la radio, qui ont réagi à ça, qui se sont posées des questions. Nous, à l'avenir, eh bien, ce qu'on va essayer de faire à la fin, qu'on va continuer à faire une table de presse, on va sortir un nouveau numéro de notre journal qu'on essaie de diffuser un maximum sur la fac, mais c'est les étudiants préfèrent lire leurs bouquins qu'on leur impose. Hein. Donc on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que nous, tant qu'il n'y aura pas de petits mouvements ou quoi que ce soit qui touche directement les étudiants, on aura du mal à faire converger les luttes, quoi, et surtout à les mobiliser pour autre chose. Quoi. Voilà. Moi, je trouve que c'est très très dur de mobiliser les étudiants s'il n'y a pas un mouvement social qui est inventé plus ou moins de toutes parts ou qui n'est pas récupéré par les médias. Quoi.
C'est vrai qu'après, quand il y a eu la grosse manif, c'était des retraites, les retraites des cheminots. Du coup, il y avait 400 personnes avec nous, cette manifestation, c'était à peu près étudiants. Et quand on essaye de faire quelque chose, donc ce qui veut dire, enfin, quand il y a un gros événement national qui est parti, quand on essaye de poursuivre et de maintenir comme ça une lutte au quotidien, il n'y a plus personne. Il faut attendre effectivement qu'il y ait comme ça un appel national, un appel du haut pour qu'il se passe des choses.
Bon, après, du coup, cette petite présentation du collectif autogéré des étudiants de Tréfilerie, je voulais vous lire un appel que j'ai trouvé sur Indie Media Grenoble. Du coup, c'est un appel du collectif de coordination lycéenne Dijonais. Comme dans d'autres villes, nous, lycéens, lycéennes Dijonais, avons décidé de reprendre le mouvement de ce printemps 2008. Cette année, contrairement aux autres, nous ne tomberons pas dans le piège des vacances, qui voudrait qu'on arrête tout et qu'on attende de nouvelles réformes pour recommencer un mouvement à zéro. Notre objectif est l'abrogation des réformes d'Arcos, et tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction, nous continuerons le combat. Mercredi 15 octobre, nous manifesterons dans les rues de Dijon contre les réformes d'Arcos, et comme ce sera la veille d'une journée nationale contre Edwige, contre le fichage policier. Lycéens, lycéennes de toutes les villes, nous vous appelons à reprendre le mouvement avec nous, à faire une manifestation autour du 15 octobre, à créer votre collectif, à rejoindre ceux déjà existants ou à vous organiser à votre manière. Coordonnons-nous et notre mouvement aura bien plus de force. N'hésitez pas à nous contacter pour la suite et faire tourner l'info. Du coup, c'est le collectif de coordination lycéenne Dijonais, contact d'Arcos Vador sur brassicanigra.org. Et voilà, je pense qu'il y a plus d'infos du coup sur le site brassicanigra.org. J'enchaîne tout de suite par l'annonce d'une manif qui aura sur Lyon jeudi 16 octobre, une manifestation contre le fichage, le contrôle, la vidéosurveillance, contre du coup dans le cadre de cette journée nationale contre le fichier Edwige. Pour rappeler ce que c'est le fichier Edwige, et d'ailleurs c'est plus le fichier Edwige, c'est le fichier Edvrisp, qui est du coup une sorte de fichier qui va fichier toutes les personnes dont l'activité n'indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. En gros, ça va ficher tous les militants associatifs, les militants politiques, syndicaux, dès l'âge de 13 ans. En gros, ça sera ça rassemblera toutes les informations type état civil, les adresses physiques, les adresses électroniques, les numéros de téléphone. Et du coup, manifestation, jeudi 16 octobre, rendez-vous 18h30, place des Terreaux. Cette manifestation, elle est appelée par, l'ultra-gauche, l'AFA, l'OCL, la CNT. Et voilà, et faites attention quand même en allant à la manifestation, parce qu'à Lyon, il y a quand même 400 caméras publiques dans les rues. Voilà, on continue par quelques brèves. Mais je voulais vous parler d'expulsions illégales qui ont eu lieu à Lyon et à Grenoble. Jeudi 2 octobre, la mairie de Grenoble, la mairie de gauche, a expulsé un squat qui était installé juste depuis 5 jours, qui s'appelait le Sunset. Ça a été expulsé avec la police, hyper violemment. Il y a 12 personnes qui ont fini en garde à vue, qui ont été libérées le lendemain. Il faut signaler qu'il n'y avait eu aucune décision de justice et que ça a été juste fait par la force. Cette expulsion, elle a fait suite à une autre expulsion qui avait eu lieu le 17 septembre, toujours à Grenoble, d'un autre squat qui était situé au Champ de Mars. Et pareil, il y a eu 3 personnes qui ont fini en garde à vue. Moi, je tiens à rappeler quand même que normalement, il ne peut pas y avoir d'expulsion sans recours au tribunal d'instance. Selon l'article 432.8 du Code pénal, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission auprès du service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci, hors des cas prévus par la loi, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Voilà, tout ça pour dire que du coup, pas d'expulsion sans décision du tribunal. Je tiens à rajouter qu'il y a eu une autre expulsion comme ça à Lyon, il n'y a pas longtemps, c'était le 21 septembre. Et voilà, tout ça pour dire que c'est de plus en plus fréquent et que c'est pas bon que ça arrive et qu'il ne faut pas laisser faire. Et on finit par une belle nouvelle, c'est une expulsion qui était empêchée, ce coup-ci à Lyon. Je ne sais plus exactement, j'ai trouvé la news sur Rebellion. En gros, dans le quartier de la Guillotière, une famille qui était expulsable par Habitat et Humanisme, parce que, en gros, problème de retard de loyer, qui malgré le fait qu'elle avait commencé à payer ses retards de loyer, Habitat et Humanisme voulait quand même... les vider parce que c'était des étrangers qui faisaient sale dans leur pseudo truc social, quoi. Manque de peau, quand Lucie a déboulé, il y avait une dizaine de personnes qui étaient là pour avec la famille pour essayer d'empêcher un peu l'expulsion. Du coup, l'huissier s'est trouvé un peu décontenancé. Il a appelé les flics. Là, dans l'entretemps où les flics sont arrivés, il y a une vingtaine de personnes en plus qui sont arrivées. Et finalement, après longue discussion, les flics et les huissiers sont repartis. Et le juge a été appelé dans la journée, et le juge qui avait ordonné l'expulsion, et il a dit que du coup il fallait refaire un nouveau jugement, et que du fait que les retards de loyer, avait commencé à être comblé, et ben que du coup c'est la décision d'expulsion pouvait être revue. Du coup voilà, on peut empêcher des expulsions.
Et voilà, donc vous êtes toujours dans l'émission du numéro 0 sur le 89.5 FM à Saint-Étienne et aussi en direct sur internet sur le site www.radiodio.org. Voilà, nous sommes le jeudi 9 octobre, il est 12h30 et cette émission sera rediffusée tout à l'heure de 17 à 18h. Voilà, ah oui, et donc on vient d'écouter un groupe qui s'appelle Ancient Chinese Secret, voilà, qui sont ricains, et un morceau qui s'appelle Waiting for Dr. Bombay. Voilà.
Alors, mardi, il faisait beau à Saint-Étienne avant que la pluie ne s'abatte par mètre cube Et mardi, c'était le jour de la journée mondiale pour le travail décent. Donc c'était un rendez-vous très très syndicaliste. Il y avait 6 syndicats qui étaient représentés. La presse bourgeoise relève 2000 personnes à Saint-Étienne, 750 personnes à Rouen. À Lyon, par exemple, il y a une guerre de chiffres. Par exemple, c'est 4500 selon la CGT et 2500 selon le Progrès, donc cette même presse bourgeoise. On était présents, on a pris un micro et on a demandé à quelques personnes de témoigner, de donner des opinions, etc. Donc on va écouter ça juste après. Donc il n'y avait pas que des syndicalistes, hein, quand même, je tiens à préciser. Il y avait quelques lycéens et lycéennes, ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient entre 20 et 30. Voilà. Bah oui, c'était très très, c'était très CGT, on va dire. Hein. Bon, alors on y parlait beaucoup de conditions de travail, on y parlait beaucoup de services publics menacés par les privatisations, de pouvoir d'achat, de crise financière, etc., etc. Juste pour l'information, le travail décent. Moi personnellement, je sais pas trop ce que c'est, mais l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, c'est ça. Elle donne une définition que vous pouvez aller voir sur son site, le de l'OIT. Bon, en gros, c'est le droit à un travail décent implique l'accès à un travail productif et suffisant, d'une qualité acceptable, etc., etc. Voilà. Pour l'anecdote, et ça j'ai trouvé ça drôle, et je tiens à vous le dire, voilà, c'est à Marseille, il y avait une banderole pour cette manifestation, il y a une banderole qui indiquait « La seule façon de moraliser le capitalisme, c'est d'y mettre fin. » Bon, bref. Il y a la Confédération syndicale internationale aussi qui participait, qui organisait, je ne sais pas trop même, à cette journée mondiale, c'était la première. Je ne sais pas trop ce que c'est non plus, cette confédération. Je sais que, selon son site, elle regroupe 160 millions de travailleuses au travers de 311 organisations. Voilà. En France, donc ce mardi, il y a eu 87 défilés comptés, recensés, quoi. Voilà, je crois que, je ne sais pas si on peut peut-être écouter un peu ce que les gens ont raconté ce mardi-là. Alors, je vous le dis, ah oui, juste avant. On va écouter une institutrice, un employé de France Télécom et un lycéen.
C'est la révolution, le cas,
aujourd'hui, c'est pour un travail décent dans le monde. Donc, c'est pour la première manif mondiale, donc qui a réuni presque tous les syndicats en France. Et c'est au niveau mondial pour qu'il y ait un travail décent. Parce que même chez nous, maintenant, il y a des entreprises que le travail il commence à être indécent, quoi.
Voilà, ben moi je suis dans la rue parce que je suis professeur des écoles, que nous voyons nos salaires qui n'augmentent jamais, tout est compliqué, les mairies et les inspecteurs n'arrivent pas à mettre en place ce qui nous a été demandé par l'État. On presse le citron de plus en plus et c'est aux dépens de... des bonnes conditions de travail. Les enseignants sont tous de plus en plus stressés. Moi, personnellement, quand je suis rentrée dans le métier, j'avais une autre conception de mon travail. Là, j'ai l'impression qu'on fait du ressemelage à la petite semaine. Et franchement, je suis très déçue par ce qui est proposé par notre ministre.
On n'est plus un service public, donc la moindre intervention chez les gens est payante, alors qu'avant c'était gratuit, c'était un service public et c'est plus un service public. Et les sociétés anonymes sont là pour faire de l'argent, au lieu de le reverser à l'État, on le reverse aux actionnaires. D'ailleurs, c'est plus un usager, maintenant c'est un client. Avant on disait un abonné au téléphone, maintenant c'est un client. Alors déjà ça veut tout dire.
Notre ministre préconise le développement des écoles privées, par exemple. Et je pense que l'école n'est pas là pour rivaliser avec le privé. On constate que, par exemple, à l'école maternelle, Depuis que les 2 ans ne comptent plus dans les effectifs, les 2 et même les 3 ans ne comptent plus dans les effectifs, beaucoup de familles se tournent vers l'enseignement privé. Ce n'est pas notre conception de l'enseignement public. Moi, c'est vraiment, je suis vraiment touchée par ça. Et lorsque j'entends qu'on va donner de l'argent à des entreprises privées, entre guillemets, faire des nationalisations de banques, alors qu'on nous supprime des postes dans la fonction publique, je suis quand même assez révoltée.
Bon.
Alors déjà c'est une manif internationale donc elle aura une grande percussion, mais déjà nous en tant que jeunes c'est contre la politique gouvernementale, contre la politique de Sarko, contre les lois qu'il fait, Edwige, la privatisation de la poste et toutes les autres privatisations, contre les lois qu'il est en train de faire passer dans les lycées, comme l'universalisation des filières, un système méritocratique, etc., la suppression des postes. Nous on a du lycée, mais il n'y a pas que des lycéens, nous on représente plutôt les jeunes. Mais nous on n'a pas fait appel, on a suivi la manifestation, c'est une manif des grands syndicats. On a nos syndicats qui nous appellent à faire cette manif, mais on n'a pas fait appel, c'était aux autres syndicats. On n'est pas encore organisé, on attend les manifs lycéennes pour vraiment bouger.
C'est important, franchement on ne s'attendait pas à voir tant de monde aujourd'hui. Ça prouve bien que les gens se rendent compte qu'il y a un malaise avec cette fameuse crise qui nous bassine les oreilles avec ça. Les gens, comme ils sont dans la rue, se rendent bien compte qu'au niveau mondial, il y a du boulot à faire, quoi. Que ce n'est pas juste dans son entreprise ou juste dans son pays qu'on peut faire quelque chose. Et le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est important et ça va changer beaucoup.
Du coup, on peut changer le monde.
On est là pour le changer, on a toujours essayé de le changer et on sera toujours là pour essayer et on le changera.
Et merci à toutes les personnes qui ont dit toutes ces choses super intéressantes.
Voilà, on va écouter maintenant un morceau de Insolite, un rappeur de la région parisienne.
Panam, là-haut sur la colline, le Sarkoegger te rappelle comme fut massacré la commune. Si je pouvais remonter le temps avant de rejoindre Gustave et Louis, je présenterais Hoffman à Haussmann. Avec des scies, on coupe des branches, on coupe des câbles aussi, on te l'a déjà dit, Bobo Lago. Des branches, le cirque ferme tourne court, comme si le contact ne pouvait plus faire qu'en cas de grosse panne. La ville se rêve seulement riche et se lave salement les dérives de sa populace. Le triple trouble psychotrope pris au trip. Fais bouger les culasses, nous nageons nos troubles entre des agents doubles et d'étranges accoutumances. La ville est une jungle, pire, c'est un tribunal où les pauvres ne seront plus jugés que par contumace. L'ange qui se rêve est une armure, une fugée, il est déçu. Palam crame des ailes à la pelle et ses enfants sont des fous dans l'asile. Si un peu, il en peut plus, tout le bien, mais la meuf fut. Fais péter les fils, le breakbeat d'alambic, tout la flot dans la vie. C'est nous le décor, nos cabans qui se démontent comme une foule d'efforts. Nous faisons tellement partie du décor, c'est nous le décor, nos cabans qui se démontent comme une foule d'efforts. Dans la confusion, cherche la clarté, tombe les masques de la comédia, de la hardé. Suis les rails de la nuit, tu peux te foutre des pailles dans l'œil jusqu'à te pendre à une poutre. Et puis à la voix rapide par tous les moyens, reste speed, 3, 2, 1. Partez, c'est la vie et la bourse pour rester dans la course jusqu'à l'embarder. Paris c'est tout petit, mais c'est facile de s'y duper, y'a tout ce qu'il faut pour s'autotarter. Ici mépris, au nom du fric, au nom du père, sur les murs et la vie t'attendra les jambes écartées. Comme Zazie, vas-y, mais y d'unaire, dans le métro t'es si lunaire. Ce qui se perd, se récupère, soutien qui tu sers, va te faire encarter. Est-ce que Paris est mort comme le maire l'a parié? Est-ce que Paris est mort? Est-ce que Paris est mort comme le maire l'a parié? Est-ce que Paris est mort? Est-ce que Paris est mort? Tourne manège et barrier. Lille, Rennes, Bruxelles, Barcelone, la nouvelle métropole se lève. C'est l'Europe de luxe, elle accorde ses violons, elle se lave. Les activistes sonores de crève la bulle, des traînes, ça va, des sans-cravates, des affabules.
y'en a encore qui rentrent pas dans le manège, qui rentrent pas dans la bulle à regarder tomber la neige. Même pas mort, des activistes sonores, des crèves la bulle, des traînes savates, des sans cravate, des affabules. Y'en a encore des qui rentrent pas dans le manège, qui rentrent pas dans la bulle à regarder tomber la neige. Même pas mort.
Comment ça, Paris est mort, mais Paris peut pas mourir. Paris est éternel, Paris ville des lumières, Paris la mode, Paris.
Tragique, on a retrouvé ce matin le cadavre de Marcel Daron, authentique figure de la vie parisienne, une tour Eiffel en plastique enfoncée profondément dans la bouche.
Yo, vous êtes toujours sur l'émission numéro 0, on va enchaîner par un truc qui se passe le 17, 18 et 19 octobre à Saint-Étienne. C'est pas la fête du livre, c'est le salon de l'autre livre, organisé par la CNT à la Bourse du Travail. Il y a avec nous Eric et Élise, qui font partie des gens qui organisent, qui vont m'aider un petit peu à présenter le salon de l'autre livre. Du coup, peut-être on va commencer par expliquer un petit peu ce que c'est et parler un peu de ce qui se passe là pendant ces 3 jours.
Donc le salon se passe les 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Avec la venue d'éditeurs indépendants et ou militants. Donc cette année, ils seront 75 présents ou qui enverront leurs bouquins. Avec la venue aussi d'auteurs.
Du coup, il y a des trucs sur les 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche, des conférences. Et du coup, plein de bouquins comme ça à vendre que vous avez récupéré de plein d'éditeurs.
Oui, voilà. Donc il y a des conférences donc sur les 3 jours.
Peut-être on peut faire un petit peu le programme là des conférences du coup.
Donc le vendredi, il y aura une intervention sur le monde psychiatrique
avec
Patrick Coupchou. Le samedi, dès le matin à 11h. Il y aura une conférence sur Mexico en 1968, donc sur les soulèvements populaires qu'il y a pu y avoir à Mexico. Ensuite, à 14h, il y aura une intervention de Jean Berthaud sur les squats à Paris dans les années 90. Enchaîné ensuite à 15h par une intervention de Gilles Labarthe sur les rapports internationaux entre l'Afrique et le reste du monde. Voilà. Ensuite, à 17h, il y aura une conférence sur l'anarchisme, l'histoire et l'actualité de l'anarchisme, avec Manfredonia et Claire Ozias. Ensuite, le dimanche, il y aura une conférence sur la guerre civile espagnole avec Véronique Olivares et Michel Reynaud. Après, à 14h, il y aura des lectures et une intervention d'un philosophe qui s'appelle Benoît Caudou pour son livre « La migration des gnous ». À 15h, on attend la venue de Gérard Mordilla pour son dernier roman, Notre part des ténèbres, et puis pour l'ensemble de son œuvre. Et à 17h, une intervention de Gilles de Staël pour Mamadou Madi sur l'immigration.
Voilà.
Et les midis, il y aura des lectures et des animations musicales. Avec entre autres le samedi La Barricade, la chorale révolutionnaire. Et les lectures, c'est scène ouverte. Chacun peut venir lire un texte qui lui a plu ou un texte qu'il a écrit.
Alors, tout le programme est disponible de toute façon sur Internet, sur www.cnt-f.org/cnt42. Je pense que le programme aussi, il a commencé à être affiché un petit peu partout dans la ville. Il se retrouve un peu partout et il sera diffé pendant la fête du livre. Moi, je voulais souligner un autre truc que j'avais vu qui se passait. C'est aussi... Ah oui. Du coup, Eric, tu voulais nous faire un historique.
Voilà. Non, moi, je voulais juste dire pourquoi un salon de l'autre livre à Saint-Étienne, quelle idée a pris à la CNT de lancer ce truc en 2005. L'idée est née suite au Festival des Résistances qui avait lieu tous les ans au printemps, qui a duré quelques années, qui réunissait des collectifs stéphanois alternatifs autour de concerts, d'expos, de projections, de conférences. Et en 2005, au printemps 2005, on a bénéficié pendant une semaine d'un lieu qui existe toujours, qui s'appelle le Grand Luxe, à Beaulieu. C'est le siège de l'association Coxaplana. Et on a pu, pendant une semaine, poser une assez grosse table de presse de la CNT, avec des bouquins édités aux éditions de la CNT, mais aussi de plein d'autres éditeurs militants. Et on s'est rendu compte que beaucoup, beaucoup de gens achetaient les livres, venaient discuter, et ça a très, très bien marché. Et on a eu l'idée de lancer ce salon et profiter de la médiatisation de la fête du livre. Donc ils nous font la pub, les gens viennent acheter des livres et puis ils se retrouvent à la Bourse du Travail et ils repartent avec leur petit sac plein de livres militants. Et donc la première année, ça a été assez improvisé. On a lancé ça 3 semaines à l'avance et ça a été un grand, grand succès. Beaucoup de lecteurs, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs présents déjà dès la première édition. Et puis depuis, ça a pris de l'ampleur, on continue, ça demande beaucoup d'efforts. Il y a plus d'une centaine de bénévoles qui sont adhérents à la CNT, qui sont sympathisants, qui sont aussi des gens qui ont envie de s'investir et qui sont intéressés par la littérature militante. Donc voilà, c'est une belle aventure et ça nous montre qu'il n'y a pas besoin d'être des professionnels pour faire des choses sympas et pas besoin d'être motivé par l'appât du fric pour faire des activités culturelles.
Du coup, c'est ce que tu me disais, c'est vous qui prenez un peu à l'avance plein de bouquins en dépôt de petites éditions. Est-ce qu'il y a des petites éditions que tu as envie plus particulièrement de donner un petit coup de pub ou...
Alors les deux qui ont été moteurs au départ, qui nous ont vraiment fait confiance au départ, c'est Agone, alors qui est pas du tout un petit éditeur, mais c'est un gros éditeur à Marseille qui est un petit peu sous le feu des médias en ce moment parce que c'est aussi l'éditeur de Jean-Marc Rouillant qui repart en prison là pour au moins une semaine. Et donc moi je voulais les saluer parce qu'ils nous ont fait confiance dès le départ et ils viennent tous les ans et c'est vraiment des gens super. C'est pas un petit éditeur, mais c'est des gens bien. Et puis, il y a aussi les ACL à Lyon, qui eux aussi sont des voisins, qui sont venus dès le départ, qui ont un gros catalogue. Il y a aussi d'autres gens, il y a plein de gens à citer. Il y a 75 éditeurs qui vont être représentés sur le salon. Je citerai notamment Sansonnet. C'est un éditeur lillois, c'est un gars qui est tout seul, qui n'arrive même pas à vivre de sa maison d'édition, et qui édite des petits romans sociaux en format poche, très soigné au niveau de la reliure, très soigné au niveau de l'impression, et qui n'a pas pu venir cette année parce qu'il est fauché, parce qu'il il fait tout ce qu'il peut pour joindre les deux bouts. Donc là, il bosse et il ne peut pas venir. Mais moi, je le salue parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Il est venu une fois, il nous a régalé avec des spécialités lilloises. Voilà, il nous a fait une tarte sucrée, c'était très sympa. Et voilà, c'est édition Sansonnet. On aura ses bouquins, il ne sera pas là en personne, mais ses livres seront là et c'est vraiment des livres intéressants.
Du coup, on le voit par rapport au programme de conférences. Les choix des maisons d'édition et les choix des conférences, c'est quand même des choix politiques. Est-ce qu'il y a des trucs dont vous avez envie de parler plus particulièrement, des invités que vous avez envie de souligner, ou peut-être parler un peu de l'expo là, sur l'Espagne, sur la Révolution espagnole?
L'exposition sur la Révolution espagnole et les deux auteurs invités dépendent de des éditions Tiresias, qui est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'histoire, mais dans l'histoire des petites gens, enfin dans l'histoire, dans les mémoires, ce qu'ils appellent les mémoires des oubliés. Donc c'est l'histoire vue à travers les acteurs, mais les acteurs anonymes. Voilà, en gros.
Panam, là-haut sur la colline, le sarcophage te rappelle comme tu massacrais la commune. Si je pouvais remonter le temps avant de rejoindre Gustave et Louis, je présenterais Hoffman à Haussmann.
Yo, du coup, moi je voulais quand même souligner dans les conférences, la conférence de vendredi sur la psychiatrie avec Patrick Coupchou, qui va du coup parler un peu de tout le tournant qui est en train de, qui est de plus en plus pris en psychiatrie, qui est tourné vers le sécuritaire et vers, prendre en fait criminaliser un petit peu la folie, quoi. Et à mon avis, c'est un mec intéressant, je pense que ça va être cool.
Et puis ça s'inscrit, pardon, dans toute la dérive actuelle de l'hôpital et de la santé, qui est la psychiatrie certes, mais aussi toutes les autres pathologies, où le but du jeu, c'est de faire marcher les gens droit et de faire des économies, quoi.
Et du coup, la petite particularité de ce salon de l'autre livre, c'est que ce coup-ci, les conférences, elles vont avoir lieu dans la
salle de conférence qui porte très bien son nom, donc qui est une salle, une très très belle salle, qui est au premier étage de la Bourse du Travail, qui a longtemps été inutilisée pour des raisons de sécurité et qui à nouveau revit depuis quelque temps, notamment à l'initiative de la CNT. Donc c'est un lieu qui est très beau et qui a une bien meilleure acoustique que la salle Sacco et Vanzetti du rez-de-chaussée, où seront les bouquins. Donc voilà, si on fait ce salon à la Bourse du Travail, c'est aussi pour faire vivre ce bâtiment, qui est un bâtiment historique, qui a fêté ses 100 ans il y a quelques années, et qui à l'origine n'était pas seulement le siège des syndicats, qui était aussi un lieu de vie, de rencontre de travailleurs, qui était une Bourse du Travail où les gens venaient chercher du boulot et où employeurs et salariés se rencontraient. Donc on pense que c'est important que ce lieu vive, et pas seulement quand on a un souci avec son patron et qu'on vient voir tel ou tel syndicat.
Voilà, du coup, le 17-18 octobre à la Bourse du Travail, le salon de l'autre... 17, 18 et 19 octobre, le salon de l'autre livre, avec plein de conférences et plein de gens à croiser, il y a même un espace pour enfants, du coup, n'hésitez pas à passer, je pense que ça va être un endroit chouette pour rencontrer des gens.
On peut peut-être rappeler où c'est, la Bourse du Travail, on ne sait jamais s'il y a des gens qui ne connaissent pas.
Alors, la Bourse du Travail, c'est Cours Victor Hugo, donc c'est en plein centre-ville de Saint-Étienne. L'arrêt, c'est arrêt tram Victor Hugo au Bourse du Travail. Donc, c'est tout près de la place Albert Thomas, c'est très central. Et il y a un espace de 300 mètres carrés au rez-de-chaussée où il y a plein de livres, et un espace similaire à l'étage où il y aura des conférences. Et il y aura même moyen de boire un coup et de manger un petit quelque chose si on a faim. À vendredi.
Et voilà, donc bien maintenant, on va parler du Grémos. Donc vu que nous avons aussi une invitée, Fred, qui est là pour nous parler du Grémos, je vais te laisser présenter en fait. Qu'est-ce que le Grémos ?
Oui, alors le mystérieux Grémos, donc Grémos, c'est pour groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Donc ça a été créé au niveau de l'université, mais bon... sa vocation aussi a dépassé un petit peu le cadre de l'université. Donc ça a été créé en décembre 2007. Et l'objectif, c'est d'essayer d'un petit peu fédérer tout ce qui peut se faire en travaux de recherche sur le monde ouvrier stéphanois. Donc au niveau géographique, ça va de la vallée de l'Ondaine à la vallée du Gier, mais ça s'étend un petit peu aussi dans les campagnes environnantes, puisqu'il y avait pas mal de gens dans les campagnes qui faisaient un peu de la sous-traitance pour des usines... Sur l'agglomération. Puis bon, on voulait se cantonner à Saint-Étienne, mais bon, on a commencé à rencontrer des gens sur Roanne, alors ça déborde aussi un peu vers le nord du département. Bon, il y avait un cadre au départ, ça déborde un petit peu de tout ça. Et puis après, au niveau des objectifs du Grémos, c'est déjà de lancer un vaste programme d'enquête pour recueillir des témoignages oraux. Donc bien sûr, on cherche à joindre en priorité les personnes les plus âgées qui pourraient nous raconter des choses qui se sont passés il y a longtemps dans la Loire, mais bien sûr, on veut aussi collecter des témoignages sur ce qui se passe actuellement, même s'il n'y a plus beaucoup d'ouvriers dans la Loire, quoi, sur l'histoire ouvrière récente. On veut également inventorier les travaux de recherche, donc on va mettre en place une base de données qui sera disponible sur le site internet qui sera très très prochainement en ligne, le site internet du Grémos. Cette base de données, donc, ça va être un outil pour tous ceux qui s'intéressent un peu à cette histoire du mouvement ouvrier. Ça leur permettra de connaître les différents travaux de recherche qui ont pu être faits à ce sujet-là. Et puis également, donc, il y a le côté aussi préservation de tout ce qui est archives, documents, papiers, objets. Donc le Grémos travaille en lien avec les archives municipales de Saint-Étienne. Donc si vous connaissez des gens qui ont des fonds d'archives, etc., qui risquent de sombrer dans l'oubli, des affiches, des journaux, des courriers, des etc., des tracts, eh bien, faut le signaler pour pas que ça soit perdu, pour qu'après, ça soit mis à disposition de tous ceux qui veulent travailler dessus, pour après le transmettre. Donc, le souci, c'est de faire l'inventaire, sauvegarder toute cette mémoire ouvrière. Alors, pas seulement le travail dans les usines, mais aussi ce qui peut se passer à côté, l'activité syndicale, les mutuelles, mais aussi la vie quotidienne, les loisirs, les amicales, où étaient les magasins, enfin, toute la vie ouvrière. Voilà. Voilà le Grémos.
OK. Et donc, voilà. Pour faire d'autres choses que juste des petites recherches dans leur coin, et les gens du Grémos s'organisent deux événements. Ouais. Donc il y a l'expo photo d'abord. Est-ce que tu peux en parler un peu?
Donc oui, il y a une exposition photo. Donc c'est des photographies qui ont été faites par Léon Leponce autour de la grève de 1948. Donc c'était une grève nationale, mais en particulier à Saint-Étienne. Donc des photos qui sont exposées du 1er au 31 octobre. À la Bourse du Travail, on retombe toujours sur cette Bourse du Travail, décidément. Donc, dans le péristyle de la Bourse du Travail, cette expo, elle sera un petit peu bougée pendant le Salon de l'Autre Livre, dont on a parlé juste avant, mais on va arriver à s'entendre, puisque les grèves, tout ça, avec le Salon de l'Autre Livre, ça peut se côtoyer sans problème. Donc, voilà, dans le péristyle de la Bourse, du 1er au 31 octobre, il me semble qu'après l'expo, on la retrouvera aux archives municipales en janvier.
Ouais, c'est ça. Moi, j'avais trouvé au premier trimestre 2009 qu'elle serait exposée aux archives municipales. Mmh. Et voilà, et en plus de ça, vous organisez quelque chose le 22 octobre.
Ouais, le 22 octobre. Donc, c'est une journée de réflexion. Hein, c'est comme ça qu'on l'a appelée. Donc, le Grémos a vocation à organiser des journées de réflexion, donc des événements pour qu'on parle un petit peu de toute cette vie ouvrière stéphanoise. Donc cette journée du 22 octobre, c'est autour de la grève de 48. Donc la grève de 48, vite fait, j'ai trouvé quelques petites infos, mais c'est vrai que les collègues historiens en parleraient mieux que moi. C'est une grève, c'est une année où il y a eu des grèves nationales des mineurs, il y a eu des tensions très fortes dans tous les bassins houillers du pays. Dans la Loire en particulier, il y a eu des actions de guérilla autour des puits. Puis le point culminant de cette grève, c'était la journée du 22 octobre 1948, avec des affrontements au puits Cambefort et la mort de deux mineurs. Donc nous, on a décidé de fêter le 60e anniversaire de cette journée, puisque notre journée de réflexion se cale le mercredi 22 octobre 2008, donc à la Bourse du Travail, Salsacco et Vanzetti.
Ok, et moi, ce que je voulais te demander, c'est que c'est un truc organisé par des chercheurs et des étudiants, des gens de l'université, mais... est-ce qu'on peut venir si on n'est pas de l'université?
Oui, bien sûr. De toute façon, c'est organisé par des gens de l'université parce que derrière le Grémos, il y a quand même deux labos, un labo de sociologue, le MODIS, puis un labo d'historien, l'IERP. Il y a aussi les archives municipales. Mais ça a vocation à être ouvert. Et puis les événements sont bien sûr organisés de façon ouverte. Tout le monde peut venir. Donc au niveau de cette journée, ça va commencer... 9h du matin jusqu'en fin de journée. Donc, il y a des conférences, des discussions. Puis, bien entendu, c'est ouvert au public. Il n'y a pas de problème. Tous ceux qui sont intéressés, qui se sentent touchés par le monde ouvrier stéphanois, tenez-vous au courant des activités du Grémos.
OK. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut se tenir au courant? Est-ce qu'on peut vous contacter? Quelle est l'adresse de votre site?
Donc, oui, le site. Donc, il n'est pas encore en ligne. Il devrait être en ligne cette fin de semaine avec le programme de la journée du 22 en début de semaine prochaine. Donc là, c'est un site vraiment qui est sur le point de voir le jour. Je vous donne l'adresse. C'est hébergé par le site du MODIS. Donc le MODIS, c'est le labo qui héberge le Grémos. Donc www.modis.fr. MODIS, c'est MODYS.fr. Et après, il faut rajouter un slash. Et puis Grémos, GREMOS. Donc www.modis.fr/grémos. Et puis là-dessus, présentation du groupe et puis les activités. Bientôt la base de données en ligne, mais ça ne sera pas tout de suite. Voilà.
Et voilà. Et puis si vous voulez rencontrer les gens du Grémos ou voir ce que ça donne, venez le 22 octobre à la Bourse du Travail,
voilà.
Qui sera toujours cours Victor Hugo, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Voilà. Si personne n'a rien à rajouter, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
Non, c'est bon.
Un grand merci à Fred, Eric et Élise qui sont venus nous présenter le Salon de l'Autre Livre et puis le Grémos et sa journée d'études. Voilà. C'est, on va clore cette émission du numéro 0 du 9 octobre 2008. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5. Et le numéro 0, je vous rappelle l'adresse du site, c'est http://lenumero0toutattaché.net. Voilà, et puis on vous retrouve le jeudi 23 octobre à midi et à 17h pour une nouvelle émission. Et puis toutes les deux semaines pendant toute l'année. Voilà, et bonne journée. Et on vous laisse avec les Revengers, un groupe de Grenoble.